Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e numéro de Bonne Pioche, l'émission thématique et culturelle consacrée aux jeux de société. Eh oui, cela faisait longtemps. Mais voyez-vous, j'ai été contraint, plus ou moins volontairement, de faire un petit hiatus hivernal. Car entre une panne d'inspiration, des vacances scolaires bien méritées, une semaine de révision, une semaine de partiel, puis une semaine pour écrire son numéro, cela va bientôt faire un mois et demi que aucun bonne pioche n'a pointé au bout de son nez. C'est désormais chose du passé, car voici que je reviens avec un beau projet. En effet, je vais initier aujourd'hui un cycle de 6 plus 1 émissions consacré à l'histoire du jeu de société et recoupé sous l'intitulé « Voyage à travers l'histoire du jeu de société ». La première émission évoquera la période antique, la deuxième se penchera sur le Moyen-Âge en Orient, la troisième sur le Moyen-Âge en Occident, la quatrième sur les temps modernes, la cinquième sur le 19e et la première moitié du 20e siècle que je vais regrouper sous le thème de l'époque contemporaine, et la dernière sur la deuxième moitié du 20e siècle et le 21e siècle qui aura le nom des temps actuels. Enfin, la 7e émission, la plus 1, sera consacrée aux jeux ancestraux, mais comme elle aura une optique plus ethnologique que historique ou archéologique, j'essaie de la mettre à part, surtout de la traiter à la fin. Nous sommes donc partis pour le premier numéro de Voyage à travers l'histoire des jeux de société, l'Antiquité. Et oui, aujourd'hui, nous allons remonter aux sources de notre civilisation et explorer le jeu pendant l'Antiquité. Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur 4 grands groupes de civilisations. Nous allons tout d'abord évoquer le jeu dans la civilisation égyptienne, puis nous irons faire un tour du côté de la Mésopotamie. Dans un troisième temps, nous verrons les grandes îles de la Méditerranée orientale et nous finirons par le tandem d'enfer, la Grèce et Rome. Mettons donc tout d'abord le cap sur l'Égypte. Le patrimoine égyptien qui nous demeure est très riche. Cela est d'autant plus surprenant que c'est l'une des civilisations les plus éloignées de nous d'un point de vue temporel. Les archéologues ont réussi à reconstituer 3 jeux. Alors qu'est-ce que je veux dire par reconstituer ? Cela veut dire qu'il y a 3 jeux au sujet desquels nous avons du matériel en quantité suffisante ou dont nous connaissons une partie des règles ou même dont nous avons des représentations de personnes en train d'y jouer. Le premier est le Méhen, ou jeu du serpent, nommé d'après un serpent mythologique. Le plus vieux plateau de Méhen a été retrouvé à Nagada en 3000 avant notre ère. Il représente un serpent enroulé sur lui-même, subdivisé en cases, à l'image de l'un de nos jeux de loi. Mais l'aventure du Méhen continue en 2650 avant Jésus-Christ, dans la tombe de Ési, à Saqqara, un haut fonctionnaire du pharaon Djoser de la 3e dynastie. Car en effet, cette tombe nous montre sur une fresque murale un ensemble complet pour jouer au jeu du Méhen. Et en plus du plateau, nous découvrons que les joueurs disposaient de 3 jetons, donc 3 de lion pour un joueur, 3 de lionne pour un autre joueur. Chaque jeton est accompagné de 6 billes. Nous ignorons par contre totalement les règles et ce à quoi servaient les pions lion, lionne et les billes. Le jeu va disparaître vers 2200 à l'aube du Moyen-Orient, avant Jésus-Christ, cela va sans dire, mais va réapparaître en 600 avant Jésus-Christ, pendant l'époque dite Saïte, où un bas-relief conservé actuellement à Boston représente des joueurs en pleine partie de Méhen. Le deuxième jeu dont je vais vous parler est sans doute le plus célèbre de l'Égypte antique. Il s'agit du Senet, passage étymologiquement. Contrairement au Méhen, dont la première trace est le jeu physiquement, La première trace du CNET est une représentation qui date de 2650 avant notre ère et qui vient d'où, je vous le donne en mille, de nouveau, la tombe de ce vieux Ezzy qui devait être un sacré gamer. On voit, contrairement à l'accoutumée sur les fresques égyptiennes, le jeu non pas de profil mais du dessus. Et l'on découvre un plateau de 10 x 3 cases avec, sur certaines cases, des petites annotations. Fourni avec ce plateau, nous avons 7 gros jetons et 7 petits jetons, donc chaque joueur ayant une taille de jeton, ainsi que des bâtonnets qui servaient au tirage au sort. Cette version du CNET à 7 jetons va perdurer jusqu'en 1150 en Jésus-Christ, où elle va être doublée à cette époque d'une version à 5 jetons. Très longtemps, les égyptologues n'ont pas compris à quoi correspondaient ces 5 jetons, et il fallait franchir l'étape supplémentaire, trouver des CNET pour de vrai. Les plus vieux CNET que nous avons datent de 1550 avant notre ère, donc du nouvel empire de la 18e dynastie, et là c'est la révélation. Les coffrets de CNET sont pour leur plupart recto-verso. Sur le recto, comme dans la tombe d'Ezy, nous avons 3 fois 10 cases pour jouer avec 7 jetons, et au verso, nous avons un plateau de 20 cases qui, selon les égyptologues, étaient utilisés pour le jeu à 5 jetons. Les recherches avancent, et avec des documents plus récents, comme le texte de la tombe de Senet Gen de 1280 R, les égyptologues ont réussi à reconstituer en partie les règles du jeu. Le parcours donc des 30 cases dessine un S inversé. Les joueurs, au début de la partie, placent leurs jetons de la case 1 à la case 14. Un jeton par case, 7 x 2. La 15e case est appelée « Maison de la Renaissance », car oui, en égyptien, le mot pour « case » et « maison », c'est le même. La maison de la Renaissance devait sûrement désigner la case départ. Les joueurs, pour gagner la partie, devaient avancer leur pion selon un tirage au sort, et le gagnant est celui qui avait réussi à faire sortir du parcours tous ses pions. Certaines cases, comme je l'ai dit, étaient marquées et correspondaient tantôt à des bonus, tantôt à des malus. Ainsi, la 26e case porte l'hiéroglyphe Nefer, qui veut dire « bon » en égyptien, et donc devait sûrement désigner un bonus, là où la 27e case représente de l'eau et est nommée dans les textes « Maison du malheur », elle devait très sûrement correspondre au puits du jeu de loi et signifier un retour case départ. Ce qui est très original, et ça sera ma dernière anecdote sur le CNET, c'est que nous savons grâce à des papyrus les mots que se disaient les adversaires en commençant et en finissant la partie. Ils commençaient la partie en déclarant qu'ils entraient dans la salle du tribunal des 30, et la partie se terminait avec le perdant qui déclarait au gagnant « tu es justifié ». Le troisième jeu égyptien aurait pu être espion sous l'ère soviétique car il possède trois noms. C'est tantôt le jeu des chiens et des chacals, tantôt le jeu des 58 trous, tantôt le jeu des 30 points. Il est apparu en 2100 avant notre ère, mais le plus bel exemplaire qui nous parvienne date de 1800 avant Jésus-Christ et est conservé à New York. Il s'agit d'un superbe petit piano en ivoire percé de 58 trous plus 1, qui forme pour les fans des jeux Harry Potter le symbole de Incendio dans Harry Potter 1 sur PC, pour ceux qui ne voient pas une sorte de flamme, donc avec 10 trous parallèles qui descendent et 19 trous qui forment une courbe extérieure et qui se rejoignent au niveau d'un 59e trou. Et ils sont fournis avec donc des fiches en forme de chien avec les oreilles rabattues ou de chacal avec les oreilles levées. Chaque joueur était propriétaire soit des chiens, soit des chacals, et il fallait qu'ils parcourent leur parcours individuel, la moitié du symbole dessiné par les troupes. Vous allez me dire, c'est pas très innovant par rapport au CNET. Ce qui est original dans ce jeu, c'est qu'on observe que certaines cases non contiguës sont reliées entre elles par des traits. Avec le jeu des chiens et chacals, les Égyptiens inventent le principe du raccourci, comment court-circuiter le tracé initial des trous pour aller plus vite. Le jeu a également une version conservée dans les musées français, et le Louvre peut se targuer d'avoir un magnifique plateau en forme d'hippopotame qui date de 800 avant notre ère. Mais assez parlé d'Égypte, allons de l'autre côté du croissant ludique, du croissant fertile, en Mésopotamie. Ah, le Tigre et l'Euphrate. Les cités qui se développent entre ces deux fleuves font partie désormais de l'histoire avec un grand H. Assur, Babylone, Ninive, Suse, Uruk et Ur. C'est cette dernière cité-état qui nous intéresse, puisqu'on a retrouvé dans les tombes royales de cette ville un jeu qui date de 2600 avant Jésus-Christ et qui porte désormais le titre de jeu royal d'Ur A25. Nous avons conservé l'ensemble du matériel de jeu, et ça c'est exceptionnel. Le plateau d'abord, qu'on appelle également dans le milieu du jeu le tablier, il s'agit donc de 3x4 cases qui forment un rectangle d'un côté, de l'autre côté on a 3x2 cases qui forment lui aussi un petit rectangle, donc 12 plus 6 ça fait 18, et les deux cases restantes forment un petit tunnel entre ces deux blocs. Les cases sont décorées de motifs géométriques très jolis, avec certains qui se répètent, et sont fournis avec le plateau des jetons, 7 jetons par joueur, marqués chacun de 5 petits points, avec une inversion des couleurs pour faire ressortir les points. Ce que je veux dire, c'est que les jetons blancs ont des points noirs, et les jetons noirs ont des points blancs. Plusieurs plateaux ont été retrouvés dans les tombes royales de la ville, et bien que les symboles géométriques des cases varient d'un plateau à un autre, on se rend compte que le motif de la rosace est toujours présent sur les mêmes cases. Alors, je vous entends déjà d'ici, vous êtes en train de vous plaindre. Oui, enfin, tu es tout un plat d'un jeu mésopotamien, alors que les Égyptiens, eux, ils avaient 3 jeux. Oui, mais là, gros avantage, on a des règles de jeu d'époque qui nous sont parvenues. Enfin, règles d'époque, c'est un peu vite dit. Il s'agit d'une tablette cunéiforme conservée au British Museum, rédigée à Babylone en 177 avant notre ère. Alors vous allez me dire, oui, attends, 177, il y a un écart de 2000 ans entre les premiers plateaux retrouvés et les règles, le jeu a dû évoluer. Effectivement, le jeu a très certainement évolué. Mais entre avoir les règles 2000 ans après et ne pas avoir de règles du tout, il y a quand même une grosse différence. Et bien que le jeu ait changé, il y avoir des constantes qui ont dû perdurer. La tablette commence par une liste du matériel et la grande surprise, c'est exactement le matériel qu'on a retrouvé dans les tombes. Donc là, on est très content. La tablette détaille les règles, je ne vais pas vous expliquer les règles, mais je vais vous parler des rosaces dont on a parlé, car la tablette les mentionne. Et effectivement, elles avaient quelque chose de spécial. Les Mésopotamiens ont inventé avec les rosaces le principe du bonus-malus. Alors je m'explique. Lorsqu'un joueur s'arrêtait sur une rosace, il avait un bonus, mais lorsqu'un joueur passait sur une rosace sans s'arrêter, il avait un malus. On précisera que la tablette mentionnait également l'outil de tirage au sort en vigueur, à savoir des osselets. Et avant de quitter la Mésopotamie, c'est très intéressant de s'intéresser sur comment est-ce que les civilisations antiques tiraient au sort. Le premier instrument de tirage au sort n'a pas été le dé, mais a été l'osselet. On retrouve des osselets pour tirer au sort datant du 5e millénaire avant notre ère en Europe de l'Est. De l'Europe de l'Est, ils vont migrer en Anatolie, donc le nom de la Turquie antique, et en Mésopotamie. Mais on va utiliser à la place en Égypte des bâtonnets que j'ai mentionnés plus haut. L'osselet va émigrer ensuite en Égypte et remplacer le bâtonnet, tant et si bien qu'on a une tombe de 1300 avant Jésus-Christ, la tombe de Nebermat à Deir el-Médineh, où l'on voit des joueurs de Sénètes qui tirent au sort non pas avec des bâtons, mais avec des osselets. Il est temps de quitter la terre ferme maintenant, direction les îles méditerranéennes. Alors, quand je dis les grandes îles de Méditerranée orientale, je parle de l'île de Chypre et de l'île de Crète. Chacune de ces deux îles nous a fourni un artefact ludique de valeur. Commençons avec Chypre. On a retrouvé à Chypre un mancala qui date de 1700 avant Jésus-Christ. Alors, vous allez me dire, mancala, ça sonne pas très chypriote. Vous avez tout à fait raison. Le mot mancala vient des langues africaines, du verbe nakala qui veut dire mouvoir. Il s'agit d'un type de jeu dont je parlerai dans mon émission spéciale, la 7e, car bien que le nom soit africain, c'est un jeu que l'on trouve dans de nombreuses cultures et qui se base sur le principe des jeux à semer, comme l'awale. C'est donc à Chypre qu'on a retrouvé le plus vieux mancala de cette famille, qui s'illustre aujourd'hui, notamment en Afrique. En ce qui concerne la Crète, le magnifique artefact qui nous intéresse est l'échiquier de Knossos, qui date de 1600 avant Jésus-Christ. C'est une pièce énorme qui a été découverte par Sir Arthur Evans, l'archéologue qui a remis au goût du jour Knossos. Il s'agit d'un objet de 1 mètre de long sur 50 cm de large, fabriqué en ivoire incrusté de cristal de roche, d'or, d'argent et de pâte de verre bleu. Malheureusement, nous n'avons retrouvé aucun autre accessoire à côté du plateau et nous ignorons absolument tout des règles du jeu. Pour finir ce tour dans l'Antiquité, direction la Grèce et Rome. Alors, je vais peut-être vous décevoir, chers auditeurs, mais les Grecs, eh bien, n'étaient pas le peuple le plus joueur. Ou du moins, c'est ce que l'archéologie nous montre. Car nous avons une réelle période d'absence totale de jeu dans les fouilles archéologiques. Entre 1400, donc la fin de la civilisation minoenne de Crète, et moins 700, aucune, absolument aucune mention de jeu, sauf chez Homère, où dans l'Odyssée, les prétendants de Pénélope s'amusent avec des jetons, pas franchement des gens très recommandables. Le jeu refait son apparition au 6e siècle avant Jésus-Christ, et là, il faut que je vous raconte quelque chose de très original avec les Grecs. C'est que là où pour les civilisations égyptiennes, mésopotamiennes, nous avions donc des objets ludiques, mais avec des règles très légères, avec les Grecs, c'est l'inverse. Nous avons absolument zéro, c'est extrême, mais nous avons très peu de jeux physiques, mais nous avons chez les auteurs, dans l'énorme corpus de la littérature grecque, des mentions de jeux. Là interviennent les Romains. Les Romains, donc les successeurs culturels des Grecs, qui, eux, en revanche, nous ont fourni une énorme collection de pièces à jouer. Voilà pourquoi, pour évoquer l'histoire ludique en Grèce et à Rome, je ne veux pas traiter l'un puis l'autre, mais les deux en même temps, en regroupant les jeux selon deux branches, les jeux se basant sur le hasard, sur le tirage au sort, et les jeux se basant sur la stratégie. Nous verrons comment est-ce que les textes grecs et les pièces romaines se complètent. D'abord, commençons avec les jeux se basant sur le hasard. Il faut savoir quelque chose, c'est que les Grecs vont recevoir de l'Orient mystérieux les dés. Les dés cubiques, en effet, ont été inventés en 2300 avant notre ère, à Mohenjo-Daro, sur la vallée de l'Indus, et vont progressivement passer en Occident, tant et si bien qu'au 6e siècle, les Grecs tirent au sort avec des dés. Avec les dés, ils font plus que tirer au sort, ils se mettent à jouer, et c'est là qu'intervient le jeu des dés, ou en grec, les kuboi. Platon mentionne ce jeu. De quoi parles-tu ? De la réflexion sur ce qui nous est arrivé. Comme dans un coup de dés, nous devons, selon le lot qui nous échoit, rétablir nos affaires par les moyens que la raison nous prescrit comme la meilleure. C'est du Platon tout craché. Les Romains aussi utilisent les dés pour jouer, mais nous en savons un peu plus. Il s'agit du jeu des 12 lignes, ou si vous préférez en VO, le Ludus Duodecim Scriptorum. Il s'agit d'un plateau constitué de 36 cases, donc sans surprise de 12 lignes de 3 cases. Et voici les règles. Chaque joueur dispose de 15 pions qui vont être déplacés sur les cases, selon les indications données par 2 dés. L'objectif pour chaque joueur est de faire parcourir le circuit entier à tous ses pions pour faire sortir les siens avant ceux de l'adversaire. Étant entendu que des conventions peuvent retarder ou accélérer la marche de tel ou tel pion, par exemple, un pion ne peut pas être placé sur une ligne déjà occupée par un pion adverse. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un jeu de un peu qui ressemble au Sénète. Oui, mais les Romains, ils cherchent le littéraire. Certains plateaux, au lieu de présenter 36 cases toutes bêtes, ont la forme d'une phrase de 36 lettres, chaque lettre étant donc une case. Je vais donc vous donner des exemples de mes trois phrases préférées. On a tout d'abord celle que je n'ai pas réussi à trouver en latin, mais voici la traduction française. « Ôte-toi de là, donne ta place, tu ne sais pas jouer, imbécile. » La deuxième que j'ai en latin, « Si tibi tessela favet, ego te studio wicam. » Donc si le dé te favorise, moi je te battrai en m'appliquant. Et la troisième, Inuida punera jubent felice audere doctum, de mauvais pions oblige le joueur habile à bien jouer. Que de phrases magnifiques. On passe maintenant au jeu de stratégie, qui se différencie des jeux de hasard, là où il n'y a plus un parcours, mais une sélection que doit opérer le joueur quant à la case qu'il occupe avec ses pions. Les Grecs ont ce qu'on appelle le jeu de la ville. Alors, pourquoi si vous êtes ce nom ? C'est par analogie avec les plans d'urbanisme comme ceux d'Hippodamos à Milet au 5e siècle après Jésus-Christ. En effet, le quadrillage des villes rappelle le quadrillage du damier. L'auteur Pollux mentionne le jeu. Un jeu qui demande un grand nombre de pièces, c'est le jeu du Plition, qui offre des cases formées par des lignes. Le Plition s'appelle la ville et chacune des pièces un chien. Nous n'en savons pas plus. Si, nous savons quelque chose que je ne vous ai pas lu dans le texte. Le mécanisme du jeu est la prise par tenaille. Pour prendre un pion, il faut que deux de tes pions l'encadrent. Ce principe sera repris par un jeu de la Rome antique, le jeu des Latroncules, qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Le jeu se joue sur un plateau à damier de 75 cases qui évoque nos échiquiers modernes, et chaque joueur possède 16 jetons de couleur, donc soit noire, soit blanche, 8 fantassins appelés les latronesses ou ordinari qui ne peuvent qu'avancer tout droit d'une case, et les cavaliers ou latronculi ou wagi qui peuvent se passer d'une case dans toutes les directions de l'espace, donc en vertical, en horizontal ou en diagonale. Au départ, comme aux échecs, on place toutes ces pièces sur les deux lignes les plus proches de nous et on les fait avancer. Avec le même mécanisme de la tenaille, le but du jeu est de prendre toutes les pièces de l'adversaire. Voilà, s'achève mon émission consacrée à l'Antiquité et aux jeux de société. J'espère vous retrouver à très bientôt, soit dans le deuxième volet de cette aventure temporelle, soit dans un autre numéro de Bonne Pioche. À très bientôt.